Et bonjour à tous, c'est Cal sur Fréquence 7 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Nos Santé Mentale en Lutte, dédié aujourd'hui à un grand thème de lutte contre le racisme et de décolonisation des arts et de nos vies, tout simplement. En tout cas, j'ai la chance et l'honneur et la joie vraiment d'accueillir aujourd'hui Flamme depuis un quart, 2 heures de quart depuis Valence. Merci Flamme d'être là.
Avec grand plaisir, merci Clara de me recevoir. Franchement, t'es adorable, merci. Trop d'estime, trop de mise en valeur, j'adore.
C'est normal, les copains, on s'en pouvoir. Et en tout cas, là, on va parler de plein de choses aujourd'hui, comme toujours, des références culturelles qui nous sont aussi concoctées grâce à la super équipe de la Bibli, les Lins, les Lunes, les Lynx. Alors, on va vous parler aussi de formats culturels qui ne sont pas forcément des livres, et notamment des podcasts de notre invitée, Nola à la campagne et Flamme à la flemme. Et puis, en termes de livres, alors des références plutôt historiques, vraiment avec des bases comme Peau noire, masque blanc et Pour la révolution africaine de Frantz Fanon. D'ailleurs, on en parlait en ce moment, il y a ce docu qui a enfin été réalisé sur son œuvre, qui tourne dans les salles, sûrement cet été dans les festivals, donc vraiment suivez. Je pense que c'est un documentaire qui mérite d'être vu et d'être encouragé. Et puis, toujours pareil, des livres pour enfants aussi qui m'ont accompagnée dans la préparation de cette émission. Je pense à un album jeunesse qui m'a trop touchée, qui s'appelle « La nuit, tous les chats sont gris », qui est vraiment trop chou et qui est de manière poétique et subtile, très politique en fait et engagée. Un ouvrage aussi de la collection « Petite et grande » avec Rosa Parks. Ça reprend en fait toutes les héroïnes qu'on peut avoir sur notre histoire et nos imaginaires en commun. Donc là, c'est Rosa Parks. Mon coup de cœur absolu, c'est le roman, le premier roman de Seinabou Sonko, Jean. Voilà, on reviendra dessus, vraiment, genre, je l'aime de tout mon être. Et puis, des ouvrages qui sont nécessaires, que moi, en tant que personne blanche, j'ai dû lire, genre Mécanique du privilège blanc de Estelle Depry, par exemple, aux éditions Binge. Et puis, des petits livres aussi arty, venant du milieu de l'art contemporain aussi, comme Contre-visualité. C'est un tout petit livre qui nous a été offert par les éditions Lorelei dans la collection Friction. Et c'est en fait ce genre d'ouvrages qui permettent aussi d'examiner comment certaines œuvres d'art, elles questionnent les systèmes de visualité, de représentation hérités des mécanismes de domination, qu'ils soient capitalistes, coloniaux ou patriarcaux. Donc voilà, ça fait du bien aussi de décoloniser les arts et de repenser à nos imaginaires. Voilà, donc ce genre d'ouvrage aussi très utile dans nos milieux. Et puis des classiques de Bell Hooks, de Maya Angelou, d'Audre Lorde, of course, que nous avons à foison à la Bibli, donc n'hésitez point. Bon, il y a tellement de thématiques qu'on a abordées dans cette émission qui auraient pu être liées avec le thème du jour. Je pense bien sûr à décolonisation et écologie. Je pense à racisme et queer. Et ça, on l'abordera beaucoup en deuxième partie avec une autre invitée. Je pense aussi au thème de la communauté avec un ouvrage qui m'avait marqué, qui était celui de Cultiver l'appartenance de Bell Hooks. Donc un ouvrage dans lequel un recueil de textes super chouette aussi sur qu'est-ce que ça veut dire aussi de faire communauté. Et puis voilà, moi en tant que personne qui était dans la recherche, j'ai beaucoup assisté, je me suis beaucoup intéressée à ces séminaires, à ces tables rondes, mais le problème c'est que très très souvent c'est entre presque que des blancs.
Oui, souvent.
Tu vois, c'est ça le problème, et c'est la réalité du terrain de ces lieux pour qui c'est le quotidien, c'est souvent un peu loin quoi.
Oui, c'est ça, et puis surtout qu'on est fatigué déjà de plein de choses. Si en plus on doit gérer d'autres personnes qui parlent de choses, qui ressassent des choses dures, et ben des fois ça peut être trop. Ou des fois c'est organisé aussi par beaucoup de personnes blanches. Donc c'est un peu compliqué aussi de trouver le juste milieu entre je trouve ma place dedans ou pas, quoi.
Ouais, c'est ça. Comment tu t'impliques ? Parce qu'en même temps, c'est un sujet qui te concerne personnellement et t'as pas forcément envie de faire la pédagogie et de prendre cette charge mentale-là.
C'est ça.
Et en même temps, t'as envie que ton histoire elle soit racontée par toi-même et que tes récits soient représentés par les personnes en question, quoi. Ouais. Je comprends fort. Et là-dessus, je sais qu'il y a deux événements à Paris ce printemps qui m'ont marquée, où je trouvais que justement on arrivait enfin à dépasser un peu ça, c'était le festival Reach Out, qui est un festival antiraciste, féministe et écologiste, qui avait pour thématique en avril décoloniser les imaginaires. Et vraiment le programme était ultra intéressant, basé sur comment justement le privilège que c'est de penser l'écologie quand on est blanc, enfin plein de questions comme ça sur des thématiques féministes, des thématiques queer, etc., et thématiques écolo aussi. Voilà, très intéressant. Il y avait aussi à la Flèche d'Or, tellement d'événements, j'aime trop cet endroit, tellement d'événements comme un qui s'appelait « Colonialité et réparation ». Ouais. Donc sur la question justement de réparation, voilà, suite aux empires coloniaux qui ouais. persistent même au-delà, après l'indépendance des pays concernés. Et moi, ça m'a marqué parce que j'ai évolué dans un milieu donc, de l'art contemporain, de la création contemporaine. Je pense au CCN, quand on avait beaucoup d'artistes concernés qui venaient revendiquer l'afroféminisme par et pour les personnes concernées. Voilà, donc. Pour donner un petit contexte historique et sémantique, l'afroféminisme, c'est un mouvement qui est apparu pendant la période d'émancipation féministe des années 70, à la même période que le black feminism aux États-Unis, et c'est un mouvement qui est porté par des afro-descendants, donc d'Afrique, des Caraïbes, d'Europe et des diasporas. C'est un mouvement militant qui lutte à la fois contre les systèmes d'oppression sexiste, négrophobe et parfois capitaliste. Donc c'est vraiment un mouvement qui se situe dans l'intersection. Et toi, comment tu dirais que genre ton engagement militant il a pu s'incarner ces dernières années? Est-ce que aussi ça participe à l'impact que ça a sur ta santé mentale, puisqu'on est aussi ici aujourd'hui pour parler de ça?
On adore. Et ben alors, pour moi déjà, la santé mentale, c'est un sujet qui prend beaucoup de place dans ma vie ces derniers temps. Et surtout depuis 6 ans à peu près, je pense que ça prend beaucoup de place. Enfin, je pense que depuis 6 ans, voire depuis mon enfance, j'ai fait de la dépression infantile sans m'en rendre compte. Ma famille non plus ne s'était pas rendu compte. Et là, depuis ces quelques années, en tant que personne noire, quand on voit par exemple George Floyd ou d'autres trucs assez violents comme ça, des morts comme ça.
Ah, tu parles sur les violences policières.
Ouais, sur les violences policières, tout ça. Moi perso, je m'étais pas sentie en sécurité. Quand il y a eu aussi le référendum l'année dernière, l'été, vous savez, quand Macron il a dissous l'Assemblée, et ensuite on a dû vite se précipiter aux urnes, et tout le monde était stressé, on pensait que la droite allait passer, et en fait il y a une mobilisation géniale des personnes de gauche, et franchement je m'y attendais pas, et ça m'a fait du baume au cœur parce que je sentais monter une sorte de tension dans l'atmosphère, et on entendait de plus en plus de discours racistes, haineux, décomplexés, et c'était très dur. Et donc la santé mentale, forcément, elle se dégrade avec ce genre de choses. Après, c'est pas pour tout le monde pareil, il y en a qui le vivent mieux que d'autres. Hein. Il y a ma soeur, par exemple, elle est en mode « oui, on fait avec ». Ma mère a dit « bon, on fait avec, c'est comme ça, ils ont toujours été racistes, on fait avec ». Mais je pense que en tant que femme noire, queer, tout ça, ça m'a mis dans une position de fragilité. Déjà que j'étais fragile mentalement, qu'on est en dépression en plus d'être fin et en plus noire. En France, c'est compliqué.
T'as fait d'ailleurs un épisode hyper chouette, un hors-série de Nola à la campagne sur la thématique de la politique française et de la santé mentale.
Oui.
et je trouve ça super chouette que t'aies pris le micro pour parler de comment tu le vivais quoi, à ce moment-là.
Merci. C'était pas évident parce que tu sais, on se dit toujours... mais est-ce que je vais utiliser les bons mots? Est-ce que je vais pas blesser... Même je me suis dit, est-ce que je vais pas blesser des amis en disant ça? Il y a aussi le truc de se dire, les soignants sont des personnes blanches. Et quand t'es une personne racisée et qui va vers des personnes blanches pour parler de tes problèmes, il y a certains trucs qu'ils comprennent pas. C'est comme si on inversait les rôles. Imaginons qu'une personne blanche va en Côte d'Ivoire, imaginons dans un pays africain, en Côte d'Ivoire et va se faire soigner là-bas. Et ben le soignant, il connaît la population ivoirienne, du coup qui est noire, et du coup il a certains trucs qu'il fait par rapport à ça. Il y a certaines choses qu'il ne saura pas par rapport à la culture européenne. Et ben là c'est pareil. Il y a plein de choses, le racisme, la misogynie, l'intersectionnalité. Il y a eu des fois où j'ai dû raconter à des psys ce que ça voulait dire, quoi. Parce que et je perdais du temps, du coup, dans mon soin, parce qu'il faut leur expliquer tout le pourquoi on est là, la relation avec la famille qui est compliquée, qui n'est pas la même qu'en Europe. Et ça, c'est assez compliqué. Mais il faut trouver des bonnes personnes. Du coup, il y a des listes qui
Ouais, il y a des
se.
réseaux.
Ouais, il y a des réseaux un peu qui passent par-ci par-là. Mais d'après les réseaux, je trouve qu'on n'en trouve pas beaucoup dans les petites villes. C'est souvent sur Paris qu'on les trouve, malheureusement. Et il y a beaucoup. C'est comme tout à l'heure, tu parlais des festivals. Tu vois, il y en a énormément. Et c'est trop bien. Mais tous centralisés sur Paris. Et on se demande, nous, quand est-ce que nous. Enfin, après, nous, il y en a aussi ici. On va pas se mentir. Il y a aussi des choses qui s'organisent. Hein. Dans les petites villes, mais c'est vrai que ce serait intéressant de pas tout centraliser sur Paris et de faire en sorte que ce soit délégué dans les autres villes pour que tout le monde puisse en profiter vraiment.
C'est clair. C'est vrai qu'en termes de ressources, en termes d'événements, en termes de voilà d'actions qui se font, c'est vrai que toujours tout est centralisé sur Paris. Et on en parlait au niveau local aussi, c'est toujours porté par un petit nombre de personnes qui font
C'est
partie d'un
ça.
collectif qui organise énormément de choses et qui ont aussi une fatigue militante. Et voilà, on le connaît aussi toi comme moi.
Ouais.
Bah, peut-être revenons aux origines. Toi, du coup, je t'ai rencontrée justement dans un événement sur le Caire communautaire qui était
Oui.
génialissime. À Cré, donc dans la Drôme. Toi, tu vis à
À
Valence.
Valence, ouais.
Et est-ce que tu veux nous dire un peu comment tu te définis, voilà, que ce soit à travers ton podcast, à travers ta vie, comment est-ce que tu te présentes au monde?
Comment je me présente au monde? C'est une question que je me pose de plus en plus ces derniers temps. Pendant un moment, je me présentais plus au monde. J'avoue que je restais dans ma chambre, je ne faisais rien. Ma santé mentale a vraiment beaucoup, beaucoup décliné, donc j'avais vraiment une image très, très négative de moi et c'était compliqué. Je dirais que maintenant, je prends de plus en plus de l'assurance et j'essaie d'être plus, comment dire, en maîtrise de ma vie. Donc je vais, par exemple, si j'ai un truc à faire dont là, que j'ai prévu depuis longtemps, je vais plus attendre, reporter, reporter, reporter. Je vais le faire le plus tôt possible. Et ça, je suis fière de moi. Je dirais que je me présente au monde en tant que jeune femme noire, racisée et queer. Et en même temps, quand je me présente à ma famille, c'est pas la même chose, tu vois. C'est toujours compliqué. Il y a toujours une tension qui est là au sein de moi-même que je ne peux pas forcément montrer à tout le monde de peur d'être rejetée ou de peur de blesser par exemple ma famille. Donc ça reste toujours un peu compliqué de se présenter en mode ah, je suis une femme noire, queer, fière de l'être et tout ça, tu vois. Du coup, à un moment donné, je faisais beaucoup de marge de fierté et tout ça, j'étais à fond dedans, surtout quand j'ai compris que j'étais vraiment queer et que je rencontrais d'autres personnes queer, c'était trop bien. Et c'était ouh, c'était l'effervescence et c'était trop génial. Et du coup, comme tu dis, enfin, militantisme à fond, quoi, collage à fond féministe, c'était incroyable. Et puis après, il y a derrière la vie et la famille, le regard de la famille, les discours de la famille qui ont beaucoup d'importance. Et ça, c'était pas simple.
C'est vrai qu'on a toujours ce dédoublement de la
Oui.
personnalité, ces dissociations un peu qui peuvent être dangereuses en plus quand on connaît que c'est des mécanismes de défense en termes de santé mentale face aux personnes avec qui on ne peut pas vraiment être complètement nous-mêmes. Et je comprends, force, force, force. Et il y a une autre personne qui fait partie de ces artistes qui nous empouvoirent et qui nous font du bien et ce genre de création qu'on a envie qu'elle soit au programme scolaire obligatoire.
Oui.
C'est une artiste qui justement se présente présente au monde comme noire, grosse et lesbienne, un peu comme notre chère et tendre Audrey Lorde le faisait avec Mère aussi et d'autres petits blazes en plus à une autre époque, c'est Rebecca Chaillon.
Ah, oh, je l'adore.
Et on l'aime. Et Rebecca Chaillon, on l'a vue, toi et moi, oui. À des endroits et des moments différents avec son incroyable création Carte Noire nommée Désir. Voilà, je voulais qu'on refasse un petit feedback sur cette pièce parce qu'elle était d'une puissance. Déjà, pour remettre dans le contexte, voilà, déjà scénographiquement, on est là, on s'installe dans un théâtre avec des gradins classiques. Et puis sur scène, il y a une vingtaine de fauteuils qui attendent des afro-descendants et descendantes accueillis comme des queens, des mères et des sœurs de manière ultra inclusive.
C'est vrai.
Et putain, ça fait du bien en fait. Et surtout que dans ce genre d'assemblée de public, on va pas se mentir qu'il est très très blanc.
Oui, ah, franchement, il y avait que ça. Oh, il y avait que des personnes blanches. Mais après, je me suis dit, est-ce que c'est pas malaisant pour les personnes blanches? Moi, franchement, au début, j'étais très mal à l'aise, quoi, parce que c'est tellement bizarre de se retrouver face à toutes les personnes blanches et nous, personnes femmes noires, on est tranquilles avec un verre de jus et tout
ouais,
ça.
Ouais, mais les gars, ça fait du bien. En
ouais,
fait,
j'ai adoré.
C'est mérité. Moi, j'étais en mode, mais vas-y, kiffe. Genre, vas-y, kiffe. T'es quoi, genre, vraiment, moi, perso, je faisais partie avec mon rang, on était au taquet, on était en mode, c'est normal, c'est super. Et en vrai, ouais, c'est déjà assez jouissif dès le départ dans cette mise en scène et ça nous provoque, ça nous dit quelque chose, ça choque aussi certaines personnes
ouais.
Et ce choc-là, il questionne à l'intérieur des gens dès le départ. Et puis voilà, bon, c'est vraiment une scénographie corps noir sur monochrome blanc, donc c'est hyper impactant aussi visuellement et
ouais.
Ça fait du bien. On y voit aussi des amours lesbiens, queer,
ouais.
Avec des femmes qui justement ont des physiques aussi qui sont pas avec une esthétique de la minceur. Ça fait
tout, ouais.
Trop du bien, trop
ouais.
Trop chouette en termes de représentation. Et en même temps, ça te questionne. Ouais, moi perso, je faisais partie des blancs de l'autre côté de la scène et du coup, j'étais en mode, mais genre, putain, mais tellement quand il parlait en fait d'une nécessaire réparation, de responsabilité collective, de tous les mécanismes de réappropriation culturelle, de comment est-ce qu'on questionne nos propres limites franchies et comment est-ce qu'on doit assumer aussi qu'on provient, on a été élevé, éduqué par, voilà, avec des expressions, des petites histoires graves racistes et tout, mais de manière banalisée, tu vois, dans
comme
notre
banana
enfance.
Et tout ça, là, ouais.
Et du coup, tu vois, quand ils reprennent toutes ces références-là, ça te met face à un truc et t'es en mode waouh, genre ça te met face à une responsabilité et du coup, ça te met face à un privilège. Et moi, j'ai trouvé ça genre ultra puissant. Et en même temps, il y avait voilà plein de mécanismes, voilà, d'humour et de joie collective et d'euphorie générale qui étaient utilisés sur scène avec toutes ces femmes. Genre, c'était magnifique avec toutes ces sœurs lesbiennes. Célibataire, non monogame, pluriel, voilà,
ça.
Et qui justement sont souvent traitées de manière uniforme alors que juste elles sont tellement diverses. Et cette reprise de l'imaginaire aussi noir chez les blancs, avec une inversion aussi comme ça des discriminations.
C'était incroyable ça.
Incroyable. Oh, et je pense qu'il y a un truc, tu voulais nous raconter une anecdote sur justement le moment. Est-ce que tu peux nous parler du moment où la colonisation est inversée et où là, ça devient vraiment un pur kiff?
C'est quand elle passe dans les rangs pour prendre l'argent ou des objets précieux et en fait faire comme si, enfin comme les Européens ont fait quand ils sont venus sur le continent africain. C'est-à-dire que on vient, on te prend tes richesses les plus pures, donc ta terre, tes ressources, et ensuite on repart et on en fait, on garde tout pour nous. Et ben du coup, elles ont matérialisé ça clairement, en fait, du coup via les spectateurs. Donc ils sont passés avec des chapeaux, mettez vos plus des objets précieux et tout ça. Et à un moment donné, il y a un spectateur qui a refusé de donner du coup quelque chose ou même qu'on le touche. Et en fait, une comédienne Fatou, qui est du coup la personne la plus noire de la scène aussi. Il faut dire aussi qu'il y a du. Ouais, il y a un privilège par
Ah
rapport
oui.
à la couleur de la peau, même au sein des personnes noires.
Ouais.
Et plus t'es foncé, plus tu vas vivre le racisme vraiment plus hard.
Ce qu'elle appelle bleu nuit.
Oui,
Ouais.
exact. Et du coup, ben, la personne en question, comédienne, je peux citer son nom, c'est Fatou. Elle s'est faite taper sur la main et tout assez violemment lors du spectacle. Et en fait, c'était pas la première fois. C'était arrivé plusieurs fois avant. Et c'était la goutte de trop. Et en fait, pendant le spectacle, elle a dû partir. Elle est partie. En fait, elle n'arrivait plus à rester. Et en fait, à la fin du spectacle, toutes les comédiennes, notamment Rebecca Chaillon, a bien dit que ben elles se sont tous réunies autour de la scène, enfin vraiment au milieu, et elles ne parlaient plus. Elles ont dit on veut plus parler, on reste entre nous. Et nous les autres, les femmes noires qui sommes restées, on les a rejointes sur scène et on les a prises dans nos bras et on s'est posé, on parlait plus et on était juste en mode c'est violent ce qui vient de se passer. Rebecca Chaillon a expliqué ce qui venait de se passer. Que c'était pas normal qu'elle soit partie. Et donc les autres sont partis de la scène, les personnes blanches, les hommes noirs aussi. Et en fait, il restait plus que les personnes racisées, les femmes noires racisées, toutes tissées un peu, tu vois, vraiment en lien comme ça, solide. Et après, on allait chercher Fatou. Et c'était très émouvant, c'était fort, tu vois. Ouais.
Ben, c'est vrai que c'était une pièce vraiment marquante et comme je te disais, moi, il y a un ouvrage que j'ai trouvé aussi très utile autant que cette pièce, c'est Mécanisme mécanique du privilège blanc. C'est un ouvrage donc qui a été fait par Estelle Depris et qui reprend sur 7 chapitres ben, les 5 piliers du privilège blanc. Oui, la race existe. Non, le racisme n'a pas disparu. Le système de la suprématie blanche, les défenses du système blanc, déni et attaque. Démasquer les mécaniques racistes et enfin une proposition de hacker le système. Et
Wow.
c'est vrai que personnellement, comme je te disais, moi je me suis rendu compte aussi avec ce genre de pièces comment on est imprégné des expressions, des traditions du milieu dans lequel on a grandi et comment on doit s'en émanciper aussi.
Ouais, c'est compliqué, hein.
C'est pour moi, c'est la définition même d'être woke, c'est la définition même en fait de prendre conscience de ces mécanismes d'oppression et de l'intériorisation de ces discriminations pour mieux s'en défaire et pour mieux, in fine, les faire disparaître
Ce
juste.
serait trop bien. Franchement, si tout le monde pensait comme ça, ce serait vraiment, vraiment trop, trop bien.
Et je pense que des fois, les gens, ils ont besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que le racisme systémique et de prendre conscience aussi des mécanismes de ce racisme dit institutionnel. Pour rappel, c'est une notion qui décrit une forme de racisme qui est ancrée dans l'organisation et les relations sociales au sein d'une société ou d'une organisation. C'est un racisme qui génère et entretient des discriminations en touchant aux différentes sphères de la société. Parce que oui, tout ça, ça a un lien avec la société, la civilisation et comment on fait société. Aux racines du racisme, il y avait cette conquête du monde et cette mission civilisatrice à la con et tous ces empires coloniaux qui se sont formés avec une idée de mieux connaître son identité par distanciation de l'autre ou de l'étranger. Donc c'est à partir de là que beaucoup de mécanismes de domination se sont formés.
Oui.
Et puis, bien sûr qu'on en est arrivé à un stade dans les années 1960, voire 1980 pour le Vanuatu, à obtenir une indépendance de pays d'anciens empires coloniaux. Mais on sait très bien à quel point tout ça a été un processus beaucoup plus long et qui a aussi laissé des ravages sur les siècles et les siècles pendant lesquels ils ont juste agi, quoi. Je regardais une vidéo archive INA qui date de 1961, j'avais envie de mourir, qui s'appelle Les Français sont-ils racistes? Voilà, très concrètement, je la déconseille. Et puis voilà, on sait qu'aux États-Unis, mais pas que. Il y a eu cet apartheid et cette ségrégation raciale, notamment dans les États esclavagistes du Sud. On rappelle que la fin de l'esclavagisme, c'est 1865, et on sait à quel point c'était une date qui malheureusement ne marquait pas du tout une fin. Tout ça, bon, c'est loin d'être derrière nous. Et je pense que là, j'avais envie de nous faire une petite pause musicale avec une personne et une artiste qui nous inspire aussi beaucoup et qui nous parle un peu de tout ça avec ses mots. C'est Anger de Iselt.
black, loved, hope, pure, soul.
Life through a lens that is very prejudiced.
Like I'm the only person that can get myself out of whatever problems I'm in, and no one's gonna rub my back while I'm doing it. And I just have to get up and keep going every time. The pity only lasts for about 5 seconds before the "Oh, you're so strong. Wow, I can't believe how strong you are." No, I'm not strong. I'm weak as fuck. But I was lucky enough
to find the books, find the knowledge, articulate what was happening to me. But when you don't have that, what is your other result? It's anger. You got angry, which fits the narrative of the black angry person. Mm. But how can you not be angry when your whole life you've been dismissed, overlooked, stepped on, spitted on?
Why is a black man so threatening? Why is a black woman so threatening to you that your first instinct is to kill?
That cop started come towards me, and then as I turned around, it was like, "Do not move. Stay right there." So I said with my very French voice and accent, "Please, I have my phone in my hand. Because I was scared. I was scared that he would think that my phone in my hand might be a weapon.
And I literally cried about this the other day because I was saying how I would hate for my children to grow up in a place where they don't feel safe, loved, understood, cared for, cared about, like they matter. Like that." And I literally was crying about it. Like, I would hate to bring my kids up in a place like that.
You know, there's black people that have been around forever, and we will overcome everything coming our way. And I think it is the greatest challenge to be black. But if anybody can do it, it's my kids. But I'm so sad. I'm just sad. I feel like it's a never-ending story. All of these things that we have to deal with, the road is never a straight line. There's always something, an obstacle in our way. But when we get to the finish line and we look back, we can be proud of us. Honestly, I would never, never, ever want to be anything else but black.
C'était la première partie de la chanson Anger, magnifique chanson d'Iseult, dans ce dernier album fantasmagorique. Anger, hein, qui veut dire colère, un sentiment fort légitime quand on vit tout ça. Et peut-être, Flamme, du coup, on peut parler maintenant de tes podcasts, de tes créations sonores aussi. Il y a Nola à la campagne, déjà.
Ouais.
Comment c'est venu à toi cette envie de faire ce podcast-là ?
Eh bien, tu vois, tu parlais de la colère. Moi, c'est venu aussi quand j'étais en colère. C'était il y a 4 ans. J'étais en Allemagne à ce moment-là. Je faisais un service civique. Et je parlais avec un ami de la discrimination, de tout ce qui se passait, c'était, bah, c'était à ce moment-là qu'il y avait le truc de George Floyd, il me semble que c'était à 3-4 ans déjà, ouais. voire plus. Et en fait, je me sentais pas bien, je sentais qu'il y avait un truc qui montait. Et je me suis dit, il faut que j'écrive dessus et tout ça. Et c'est resté un peu dans le flou, quoi. J'ai pas fait grand-chose de ce que j'avais écrit. Et en fait, quand je suis rentrée en service civique dans un radio BLV, et ben en fait, on m'a poussée à écrire sur le racisme et tout. Et je me suis dit, ah bah tiens, je parlais du fait d'être racisée en campagne et de ce que ça signifie aussi de l'être, d'avoir le sentiment d'être isolée et de ce que ça peut jouer sur la santé mentale, de tout ce qui me préoccupe, bah, j'ai envie de le mettre dessus. Donc voilà.
Ouais, comme tu disais parfois, d'être la seule personne racisée de ton village ou quoi, ça a un impact, quoi.
Ah ouais, c'est un truc, ça. Toute ma scolarité, je l'ai faite qu'avec des personnes blanches. Aussi des personnes maghrébines, ça a été aussi le cas. Mais vraiment, j'étais la seule noire, quoi. À chaque fois, je crois que la première, c'était au collège. Et après, j'en ai pas vu depuis avant l'université et encore. Oh. Ouais, voilà. Du coup, tu te sens vraiment comme seule. Mais après, je crois que c'est une question d'habitude, je pense. Tu vois. Après, tu adoptes des mécanismes aussi que ta famille va considérer comme blanche. Il y a aussi ça aussi. Du coup, quand tu reviens en famille avec d'autres personnes noires, on te dit que tu t'es blanchisée.
Ouais, ils te traitent de blanche.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Ouais, ouais, clairement. Mmh. Et du coup, t'as du mal à trouver ta place parce que quand t'as toujours vécu avec des personnes blanches et t'as eu une certaine éducation, catholique, tout ça, là, et ben, t'as une manière de parler, une manière de fonctionner qui est différente de celle qu'ils ont connue quand ils étaient au pays, les parents. Mmh. Et donc, pour eux, ils sont en mode, on est venu pour t'offrir une meilleure vie. Mais là, t'es trop différente, là. Reviens un peu vers nous.
Ouais, tu vois. Tout cet équilibre de l'intégration et en même temps de la préservation.
De ce qui est de la culture, quoi.
Ça te met un poids supplémentaire et une charge.
C'est ça.
En plus, ouais. On adore. Et j'adore parce que dans ton podcast Nola à la campagne, tu parles aussi des relations amoureuses et notamment du fétichisme. Pour rappel, hein, ça n'est pas un compliment, c'est une violence raciste. Juste, on pose ça là. Et puis aussi des relations amicales où justement tu parles de cette autre personne racisée que tu as rencontrée en sixième et qui justement est devenue un soutien, un adelphe, et à quel point ça fait du bien aussi d'être entouré de personnes qui comprennent ce qu'on vit au quotidien.
Bah oui, c'est ça. Ça fait toujours du bien de sentir qu'on n'est pas seul à penser. Parce que des fois, on se dit qu'on est folle, tout simplement, à force de voir des choses que les autres ne voient pas comme problématique, on se dit mais c'est moi qui ai un problème, et en fait de rencontrer d'autres personnes qui juste par le regard captent, ça fait tellement du bien. C'est comme quand on est une femme et qu'on voit un mec s'étaler, prendre toute son aise et tout ça, et que on est en mode ah il saoule, je suis serrée, et tu regardes une autre femme à côté comme putain ma pauvre, je comprends, je suis avec toi, et ben ça fait déjà tellement du bien, on se sent quand même déjà bien, même si l'action est toujours là, est toujours violente. Et ben, c'est un soutien en plus, et ça donne de la force. Et ça, on en a besoin. Et je pense que dans les ruralités, on n'en a pas assez. Mais ça commence à venir quand même. On va dire que tout va vers le mieux.
On va y arriver.
Oui.
Et ben justement, je voulais qu'on écoute juste l'intro de ton podcast Nola à la campagne, que j'aime trop.
Bonjour, moi c'est Nola. J'ai 24 ans, je suis une Française noire et j'habite dans une petite ville drômoise depuis l'enfance. Vous me direz, mais pourquoi préciser que tu es noire et française ? Ben ça ne va pas de soi, parce que quand on est comme moi, noire en France, la vie met des bâtons dans les roues et de sacrés bâtons dans les roues. Alors pour évacuer de façon saine ma frustration, j'ai commencé à écrire et en voici quelques extraits. Bienvenue dans l'univers de Nola à la campagne.
Et alors, il y a aussi cet autre podcast que tu as lancé en janvier dernier, c'est Flemme à la flamme, sur justement, tu y parles du syndrome anxio-dépressif qui t'a été diagnostiqué aussi récemment. Tu y parles de dépersonnalisation, de déréalisation, des choses qui me parlent fort. Tu parles d'isolement face au monde extérieur et d'isolement face aussi, comme tu le disais, à ta famille, quand tu passes pour la petite blanche, la petite intello. Ouais. Et tu dis cette phrase à un moment qui m'a trop marquée, quand tu dis « j'ai eu la flemme de moi très tôt. Et quand tu te demandes qu'est-ce qui est de l'ordre du pathologique et qu'est-ce qui est de l'ordre de toi, ouais. Et que tu dis que justement ça fatigue aussi d'être soi et de se sentir seul pour gérer et dealer avec tout ça, et je voulais en passer un extrait du coup.
Quand je dis la flemme, en fait, je parle surtout du sentiment d'avoir ma vie qui défile devant moi et de pas pouvoir la contrôler. Je sais pas si ça vous le fait des fois, mais c'est comme si j'étais sous l'eau et que on dirigeait ma vie et que j'étais juste en observation. Ça m'est arrivé beaucoup de fois.
Bon, je sais que c'est intense d'entendre sa propre voix, alors je vais te donner les mots d'une autre avant de te donner le mot de la fin. C'est justement Seina Boussanko dans Jean, ce roman fantastique où elle nous parle aussi de ce tiraillement entre pour elle le Sénégal et la France, Paris. À la fin, il y a cette très jolie... ce très joli message de la part de sa mamie pirate, qui la rassure et qui lui dit « Penda, tu sais, c'est une richesse de parler de langue, même plus. Avoir des djinns ne fait pas de toi une personne malade, c'est sain. L'unité du sujet est une construction qui cloisonne. » Et elle a ajouté que je ne devrais pas me sentir obligée de trancher sur quoi que ce soit. Elle en savait quelque chose, elle, sénégalaise devenue paria dans sa famille au Sénégal, qui s'était recréée des racines au Gabon tout en élevant ses petites filles en France. Ces paroles, venant de mamie, je les attendais depuis blindée. Avant de raccrocher, elle a ajouté « Il n'y a pas à se poser la question de choisir. Il faut aller vers soi, rester pirate. »
Oh, c'est trop beau.
Oui.
Merci beaucoup,
ma
Clara.
Ma chère flamme, est-ce que tu veux finir par un petit mot de la fin?
Je te remercie énormément de m'avoir invitée. Et merci vraiment de faire tout ce travail-là, qui est immense, croyez-le, j'en sais quelque chose.
Merci, ma chère flamme. Bon, comme tu sais, des fois, on a besoin de ressources. Alors, n'hésitez pas à regarder à chaque fois sur le replay de l'émission. Vous avez tous les ouvrages qui ont été cités et des ressources aussi, notamment si vous subissez du racisme, du colorisme. Vous avez des psys noirs, justement, au numéro 08 05 38 59 97, c'est un numéro voilà, que vous pouvez contacter pour ça. Il y a aussi des associations comme le MRAP, SOS Racisme, et puis sur les discriminations, le numéro 39 28. C'est un numéro précieux, ça peut sauver des vies, ça peut aider. Voilà, en tout cas, restez pas seuls, empouvoirez-vous ensemble, et on va y arriver, on va y arriver.
Merci.
On se laisse sur la fin de cette douce chanson d'Iseult en guerre. Ça et on marche. Se retrouve bientôt pour parler de queer et de racisme et de lutte. Bisous.